26 mai 83, Rimont.
Tu réponds à cette question. À la différence d'une intuition, une intuition philosophique par exemple, qui est pleinement elle-même en étant pensée, l'inspiration artistique implique un poids, un dynamisme vers la réalisation extérieure. Tout à fait d'accord. Oui, parce qu'ils ont besoin d'avoir un peu d'intelligence. L'inspiration artistique et l'idée reste inachevée tant qu'il n'a pas été encore incarné dans une œuvre. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que l'inspiration implique une intuition, mais une intuition qui est une intuition dynamique. Peut-on expliquer ce phénomène ainsi? Le propre de l'inspiration artistique est de porter sur des sensibles propres. On va continuer. Dans l'expérience artistique, l'artiste est frappé par la richesse de certains sensibles propres. L'inspiration consiste dans la découverte par l'intelligence liée à l'imagination d'une nouvelle relation entre ces sensibles propres. Oui, ça je suis d'accord que les sensibles propres jouent un rôle très très important dans la mise en lumière de ces sensibles propres par le point de vue de l'imagination et la relation des sensibles propres. Mais, comme il s'agit des sensibles propres, tant qu'ils restent dans l'imagination, ils ne peuvent pas être saisis dans leur plein éclat. Oui. Ils sont comme soupçonnés. Oui. À travers le brouillard de l'imagination. Alors, on soupçonne des petits phares de code. L'intelligence produite par la beauté intentionnelle de l'inspiration ne peut se reposer tant que celle-ci n'est pas réalisée dans toute sa splendeur. Et pour cela, il faut que ces formes sensibles propres soient incarnées dans la matière à l'extérieur de l'artiste, car ce n'est qu'à travers les sens extérieurs que l'intelligence peut contempler pleinement. Les intuitions philosophiques et mathématiques, par contre, ne partant pas directement sur les sensibles propres, n'ont pas le même besoin d'être extériorisées. C'est juste, je crois que c'est juste. C'est juste de dire ça. Que c'est du possible dans les sensibles propres. Oui, c'est au fond cette chose très difficile, parce que ça n'a pas été beaucoup étudié, mais je ne crois pas, pas beaucoup analysé. C'est de la même des possibles. Les étudiants qui avaient commencé une thèse sur les possibles, ils restaient dedans. Parce qu'une thèse sur les possibles, ça reste possible. Voyez, ça ne devait pas se réaliser parce que c'était une intuition philosophique et mathématique. Donc ça ne devait pas. Tandis que c'était le possible artistique, ça va demander l'œuvre. Alors, le possible peut s'entendre à des niveaux très différents. C'est vrai, ça s'entend à des niveaux très différents. Vous avez le possible logique. Je vous en suis là parce que c'est le premier que nous comprenons. Le possible logique, c'est lui qui vient, c'est lui. Le possible logique implique une judité, n'importe laquelle, c'est l'universel. Deuxièmement, vous avez le sensible métaphysique. C'est important parce que c'est comme c'est le même mot, vous avez tous les équivoques qui vont bien voir. Je crois que c'est à cause de ça qu'il y a confusion entre le point de vue métaphysique et le point de vue logique. Et les gens restent sur le possible. Et c'est vrai que le premier possible pour nous, le possible le plus proche de nous, c'est le possible logique. Tout le monde pense au possible logique. Dès que vous pensez à Champ, l'universel, c'est le possible logique. Il a sa signification. Il a quelque chose de particulier, c'est l'universel. Puis alors, le possible métaphysique, tout le monde le pense pas. Parce que pour penser le possible métaphysique, il faut penser l'acte. Je n'ai pas besoin de penser l'acte pour penser le possible logique. Tandis que je dois penser l'acte pour penser le possible métaphysique. C'est le sens. L'acte, c'est le sens. Troisièmement, il y a le possible mathématique, la relation. si mathématique, elle est pas si mathématique. L'être mathématique, l'étude du persérable aujourd'hui, l'être mathématique. Ce que ça intéresse, c'est intéressant de voir ce que c'est que l'être mathématique. Alors, quatrièmement, le possible poétique, artistique. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des niveaux différents possibles. Quand c'est toujours le possible, ça veut dire que c'est toujours qu'on peut faire. Alors, le possible mathématique, il est à quel niveau? C'est le niveau d'intelligibilité mathématique. Alors, c'est un atome d'intelligibilité mathématique, vous savez bien, c'est un intelligible lié à la quantité. C'est divisible. C'est un principe lié à une matière non sensible, donc la quantité. C'est dans l'ordre de la quantité, c'est une divisible. Ce qui est divisible est la chose. Et le principe poétique, c'est le principe dont les qualités sensibles. Ça, oui. C'est pour ça que c'est diamétralement opposé aux mathématiques. Les divisibles quantité et divisibles qualités sensibles. C'est le possible de la qualité sensible. Dans la qualité sensible, en effet, je peux penser le possible de qualité sensible. La même qualité, faisons attention, hein, le possible de qualité sensible. Si je prends comme ça, c'est pas possible. Mais c'est possible des relations de qualité sensible. Parce que vous pouvez parler le possible de qualité sensible, de qualité sensible. Par définition est un acte. Vous voyez bien, je crois. La qualité sensible est un acte. C'est quelque chose qui est un acte, la qualité sensible. Mais ce qui est possible, où aussi le chou, c'est dans la diversité des qualités sensibles et les diverses harmonies, les diverses proportions. Alors là aussi le chou. Au niveau des qualités sensibles. Au niveau des qualités sensibles, vous avez des harmonies différentes. Des harmoniques ou des harmonies. Et vous avez des proportions différentes. Vous avez bien un ordre différent. Donc là, l'ordre, un ordre possible des qualités sensibles. Et ce sont les qualités sensibles qui sont ordonnées diversement. C'est tout l'art. C'est tout l'inspiration. L'inspiration de l'au-dessus des grandes visions toutes nouvelles dans. De qualité sensible qu'on avait absolument vu autrement. Alors il y a un ordre de fond, une harmonie différente, quelque chose qui est tout à fait différent. Il faudrait se demander s'il y a d'autres possibles. La diversité des arts va se prendre de là. On y reviendra. On verra le problème de la diversité des arts. Il faut philosophiquement justifier la diversité des arts. Et pour justifier la diversité de l'art, il faut diversifier la diversité des inspirations. Et donc, c'est un niveau des qualités sensibles et des harmonies par rapport aux qualités sensibles. Vous voyez? Si je veux aller jusqu'au bout, hein, il faut aller jusqu'au bout, philosophiquement, dans tout le plus loin possible. Mais ce qui m'intéresse ici, vous voyez, parce que ça c'est intéressant et c'est très intéressant. Parce qu'on se est-ce qu'on est pas là en présence, quand vous êtes là en présence, au point de vue critique? Est-ce que vous n'êtes pas en présence de toutes les possibilités de confusion? Vous voyez, l'acte sépare le possible et le faux. Cherche à le dire. Ce n'est pas un principe, mais c'est une affirmation qui est toujours vérifiée. Quand vous êtes dans un état de possibilité, vous êtes dans un état de toutes les confusions. Pensez à toutes les confusions que vous avez dans votre vie. Vous en avez fait beaucoup. Non. Pas maintenant, mais avant. Parce que maintenant, vous êtes un peu plus en acte. Alors, dans la mesure où on est en acte, on ne confond plus. On sépare. Dans la mesure où on retombe dans le possible, on confond tout. Et toutes les confusions deviennent possibles. Le possible implique du plus et du moins, des confusions, etc. Tandis que là, c'est pas. Quand on est en acte, quand on est en acte, on est séparé, on sépare de toutes les potentialités. Tandis que le possible, c'est toutes les confusions. Alors, si je suis dans face là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, il faudrait se poser la question, posez-vous la question. Y a-t-il un cinquième possible? Je vois le possible qui se fonde sur la quantité, sur la matière, le possible logique, qui permet une vision. C'est le possible que l'intelligence invente et crée. Le possible logique. Alors, il y a plusieurs possibles logiques, hein, pour les... Le possible logique, vous l'avez dans, selon les diverses opérations d'intelligence, mais en fait, c'est toujours le possible logique. Le possible métaphysique, on sait bien ce que c'est. On sait bien ce que c'est, le possible métaphysique. Face à être en acte, il y a l'autre possible. Alors, comme vous avez cinq modalités de l'acte, vous avez cinq modalités possibles. Hein. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Donc, vous pourriez mettre cinq modalités ici. Ça vous en fait toujours pas mal. Il y a des possibles mathématiques, alors là c'est innombrable, c'est infini. Le possible mathématique est infini. Vous ne pouvez pas le nombrer, vous ne pouvez pas le nombrer, le possible. Les mathématiques, par définition, se multiplient à l'infini. Je ne crois pas qu'on puisse être une limite extrinsèque. Et puis le possible proprement là, le poétique, le possible artistique, qui va impliquer aussi toute une diversité. Alors lui, il est limité. Parce que le film a une qualité sensible. Oui.
Est-ce qu'il est impossible au niveau de l'attention dans le domaine éthique?
Dans le domaine
éthique.
De l'attention d'Ara, oui. De l'attention d'Ara. Est-ce que vous pouvez dire que l'intention morale est impossible? Est impossible. Vous pouvez dire dans la mesure où l'intention morale n'est pas réalisée. Oui. L'intention peut se corrompre en réalité. Alors l'intention morale implique une potentialité. Ça implique une potentialité. Oui. Alors est-ce que toute potentialité implique un possible? La potentialité, qu'est-ce que c'est? C'est la potentialité, c'est l'abstrait du possible. C'est par contre le possible possible. C'est la potentialité. Donc, puisque dans l'intention morale, il y a une possibilité, il doit y avoir un possible éthique. Le possible éthique, ce serait justement l'intention morale. L'intention morale est un certain possible. C'est un possible beaucoup moins pur que les autres, oui, parce qu'il est ordonné vers la fin. Alors, parce qu'il est ordonné vers la fin, il est en acte. Donc c'est un mixte, c'est pas du tout un possible ou pur. Tandis que les autres sont des possibles purs. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier là. C'est un mixte. Hein. Il n'y a plus quelque chose dans l'acte. Donc les autres choses, c'est vraiment des modes du possible. L'intention morale, pour vraiment que ça mode du possible, je ne crois pas. Parce que qu'est-ce qui domine dans l'intention morale, c'est l'ordre de la fin. Alors si c'est l'ordre de la fin, il est en acte, en tant qu'il est ordonné vers la fin. Il est actué par la fin. Mais il a une modalité de possible. Il a une modalité de possible. Pas plus. C'est donc pas un possible au sens propre. Vous voyez ? Donc, une modalité, donc ça ne nous donne pas une nouvelle espèce de possible. C'est curieux de voir ça. Vous voyez ? Très intéressant de voir que c'est pas étonnant parce que l'intention morale est une des modalités d'acte. Hein ? Parce que c'est un acte vital. Donc, c'est une modalité de l'acte. C'est une modalité de l'acte, c'est pas impossible. Mais il implique une modalité de possibilité. Alors, il faudrait voir, hein. Donc, j'efface celui-là. Il faut se poser des questions et savoir si le fait que nous avons en face des quatre possibles, des quatre modes possibles. Si S'il y a possible, il y a impossible. Hein. Forcément, tout possible implique une impossibilité. N'est-ce pas ? Et alors là, c'est ce qui nous donnerait les conditions de chacun de ces possibles. Et si à ces quatre possibles, je crois qu'on peut dire que les confusions peuvent se faire. La confusion en calme. C'est la confusion la plus fondamentale. Parce qu'entre le possible réel, le possible logique et le possible métaphysique, je crois que c'est là où il y a la plus grande distance. Donc la plus grosse confusion, c'est de confondre la plus grande différence. Distance. Et ça, c'est en calme. Maintenant, c'est un théologien qui s'est mis le doigt dans la vie. On a dit, une confusion fondamentale, c'est pas un philosophe, ça, c'est un théologien qui a dit cette confusion fondamentale de confondre le possible logique et le possible métaphysique. On peut confondre le possible mathématique et le possible métaphysique. Ça, c'est bien évident. Amiens. Amiens, c'est ça. C'est la confusion entre le possible logique et le possible mathématique et le possible métaphysique. Confondre le possible mathématique et le possible logique dans la logique mathématique. C'est lui qui ramène la mathématique à la logique mathématique. Il fait la confusion des deux. C'est pour ça que les grands mathématiciens ont tellement peur de la logistique. Ils ont peur. Non, pas une point carré, une réaction de point carré par rapport à la logique mathématique. Non, c'est pas les mathématiques, c'est même dangereux. Parce que ça supprime le propre mathématique. Parce que c'est une confusion du domaine mathématique et du domaine logique. Oui. Donc ça, c'est une confusion moindre que de confondre la logique et la métaphysique. Et confondre la mathématique et la métaphysique, c'est une confusion moindre que la logique et la mathématique. Oui, vous avez même des possibilités de voir jusqu'où vont les erreurs. Confondre le possible politique artistique et le possible métaphysique. Bergson. C'est intéressant de voir là, parce que vous situez les niveaux, vous voyez, dans la mesure. Est-ce que Plotin, il n'y a pas de ça aussi, Platon n'a pas ça, confusion mais du possible métaphysique et du possible poétique. Chaque fois vous êtes en face d'un système métaphysique qui a un mode poétique, qui a un mode artistique, c'est la confusion des deux. C'est une confusion moindre que la confusion dans Kant. La confusion la plus grande, c'est dans Kant. La plus délicieuse, c'est la logique et la métaphysique, je crois. C'est la plus grande des confusions. Alors, il faut réfléchir là-dessus, oui. C'est la question qui a été posée, c'est tout ça. Pour y répondre, il faut répondre vraiment à la vie, il faut comprendre que l'inspiration nous met en présence d'un possible dans l'ordre de qualité sensible, et ce possible dans l'ordre de qualité sensible demande en effet la réalisation du même. Parce que la qualité sensible demande pour être parfaitement elle-même de s'incarner. Parce qu'elle est sensible et qu'elle est une qualité sensible. Alors elle demande l'incarnation. Une qualité sensible qui n'est que pensée dans un monde intentionnel au niveau du possible n'est pas parfaitement elle-même. C'est pour ça que l'inspiration est liée à la réalisation artistique. Ça, je crois tout à fait. Oui, et ce que Maritain n'a pas assez bien saisi. Et quand Maritain a fait cette confusion, ça prouve qu'il a confondu un peu ce possible-là avec d'autres. Pour faire la coupure hein, que fait Maritain entre l'intuition poétique et la techné, c'est-à-dire l'art tel que les Grecs parlaient, parce qu'il fait cette séparation, ça c'est très net. Pour faire cette séparation en disant que l'inspiration poétique regarde le bien transcendantal et n'a pas besoin de la réalisation, il suffit tout simplement que je me laisse aller à l'inspiration. Mais je ne peux rien réaliser. Je garde ma pure. J'ai un niveau de l'inspiration comme de regarder l'inspiration. Eh bien ça, c'est une confusion entre l'inspiration poétique et le point de vue, peut-être, ou logique. Pas métaphysique, ou métaphysique peut-être aussi, peut-être. Parce que le possible métaphysique, il peut se comprendre que par l'acte. Donc, qu'est-ce qu'est l'acte de l'inspiration poétique ?
c'est là. C'est là, en définitive. Tant que vous n'avez pas réalisé l'œuvre, votre inspiration poétique n'est pas parfaitement actuelle. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que si c'était la confusion entre les deux, on n'aurait pas ça. Donc c'est plutôt mathématique. C'est plutôt le mathématique qui fait cette confusion-là. Ben, ça, il faut chercher. Mais réfléchissez sur les quatre possibles et voyez s'il y en a d'autres. Si vous avez des intuitions dans ce domaine-là, vous les soumettrez. N'est-ce pas ? Ce qu'on pourrait dire, c'est que le possible de l'intentionnalité, c'est à ça que je pensais. Le possible de l'intentionnalité. Je ne dis pas de l'intention morale, mais de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est de l'ordre du possible. Oui, on a donné un concept qui n'a plus qu'une intentionnalité. Le concept est une intentionnalité, c'est une forme intentionnelle. Donc le concept étant une forme intentionnelle, c'est une réalité possible. Alors est-ce que ce sera même l'essence ? Non. Parce que ce n'est pas l'essence. Alors est-ce qu'il y a un possible particulier qui est au niveau du concept ? Je pose la question. Ou est-ce que je dois faire la même critique pour ce possible intentionnel, cette forme intentionnelle, la même critique que j'avais faite par rapport à l'intention morale. L'intention morale étant donnée vers la fin, parce que l'intention morale étant donnée vers la fin, elle est actuée. Et si elle est actuée, elle est premièrement un ordre vers la fin de l'objet avant d'être du possible. Et donc, si c'est un ordre vers la fin de l'impossible, l'aspect acte est dominant par rapport à l'aspect puissance. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'a qu'un mode de potentialité. Alors, est-ce que je peux dire la même chose ici par rapport au concept ? Le concept est déterminé, puisqu'il a sa signification. Si le concept est déterminé, qu'il a une signification, il va regarder vers l'objet, c'est qu'un avec l'objet. Donc, s'il est déterminé, il n'est pas possible. Donc il n'a qu'un mode de potentialité. Donc je vais faire la même remarque. Donc, je peux essayer de temps en temps. C'est intéressant parce que ça donne le point de vue critique. Ça, c'est de la critique que nous faisons en faisant ça. C'est d'essayer de rassembler les différents domaines où les confusions sont possibles. Et c'est intéressant. Garde le triage. C'est ça ? Garde le triage qui consiste à ne pas faire de bien aiguiller les différents possibles, et si vous ne les aiguillez pas bien, ben vous faites des catastrophes, vous faites des confusions. Et les confusions sont au niveau de ces possibles. Alors c'est intéressant, si vraiment il y a quatre seulement de modalités possibles, s'il n'y en a que quatre, c'est intéressant de voir que c'est les seules confusions qui peuvent exister. Je passe au-dessus. Maintenant, vous avez tous compris ça, j'espère. Tous. Parce que c'est intéressant, c'est intéressant pour une réflexion philosophique sur les différentes modalités du possible. Qu'est-ce que c'est que le possible ? Si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que le possible ? Vous avez la réaction que vous devez avoir tout de suite. Quel possible s'agit-il ? Le possible logique, le possible métaphysique, le possible. Si vous imaginez un égard en Sorbonne, vous devriez poser tout de suite la question comme ça. Il ne vous comprendrait pas du tout, mais ça peut être bien. Parce qu'il ne ferait pas la distinction. Mais vous pourriez parler, on peut parler du possible logique. Il faudrait que je l'avais dans la langue. Hein. Je ne parle pas sous la main, mais celui qui l'avait dans la langue. Au mot possible. Et vous verrez que les possibles qui sont donnés, alors on verrait tout de suite, si, parce qu'il fait ça du point de vue purement historique. Alors on verra tout de suite s'il y a d'autres possibles, ou si le possible se ramène à ces quatre. Bon. Alors maintenant, continuez ce que nous avions vu la dernière fois, commencer à voir la dernière fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'habitus d'art ? C'est ça que nous étions pour nous. Quand je parle de art, j'aime bien les derniers mots de Nietzsche, avant de mourir, il a inscrit sur un parchemin A. À la place de dire A, il a dit A trois fois, puis il est mort. Qu'est-ce que c'est que là ? Nous avons vu, vous voyez bien la méthode que nous prenons, c'est intéressant. Vous avez vu qu'est-ce que c'est que l'opération artistique? Qu'est-ce que c'est que l'activité artistique? La relativité artistique, nous avons analysé les différents moments du facere. Donc, je vois le facere, je vois l'activité artistique comme ce qu'il y a de fondamental, exactement comme en morale, je vois l'activité morale comme fondamentale. Je ne cherche pas en premier lieu ce que c'est que la vertu. Ça, ce serait l'historicien. L'historicien définit sa morale par la vertu. Mais car, si on est dans la vertu, nécessairement par bonne vertu. Alors ce sera la vertu de force ou la vertu de prudence qui sera, et ce sera la vertu de prudence, la sagesse. La sagesse pratique. Donc, la domination de soi. Et alors on définira par là la morale. Tandis que nous en menons. La vertu ne peut se comprendre que par rapport à l'activité morale. C'est l'activité morale qui est plus fondamentale que la vertu. Et la vertu vient au service de l'activité morale. Je dis la même chose ici. Je dis, je ne regarde pas l'art en premier lieu, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'art. Mais vous pouvez comprendre ce que c'est que l'activité humaine artistique, le facere. Et ayant compris le facere, vous pouvez comprendre comment va naître différentes habitudes d'art. Et ces habitudes, ce qui vient perfectionner l'activité artistique, on va les appeler techné art. C'est intéressant de voir ça. Et alors, à l'intérieur de l'activité artistique, nous allons voir les différentes possibilités d'acquisition d'habitudes. La virtuosité, pas la habitude ou pas l'habitude. Intéressant de se poser la question. Et on peut avoir qu'à partir de ça. Bon, la virtuosité n'est pas un art, c'est évident. Alors qu'est-ce que c'est la virtuosité? Avoir du métier. Il a du métier celui-là, mais il manque complètement l'inspiration. Je vous dirais un autre, il a bien plus d'inspiration, mais il manque beaucoup de métier. Mon petit, vas-y, fais, tu vas arriver petit à petit. Tu as du quelque chose, il y a de l'inspiration, mais il manque du métier. Alors, on voit très bien que c'est très différent. C'est pas la même chose du tout, le point de vue de l'art, et puis le point de vue du métier, le point de vue de la techné, la technique. Tout ça doit être précisé maintenant. Alors, on va essayer de saisir comment, pourquoi l'habitus d'art, d'abord. Pourquoi la nécessité de l'habitus? La voici pour la vertu. Alors, c'est intéressant de se poser ici la question. C'est pas la même nécessité. Pourquoi la nécessité de l'habitude d'art? L'habitude, nous l'avons vu, l'habitude c'est une seconde nature, l'habitude est nécessaire lorsque il y a une indétermination. Partout, la détermination, il n'y a pas besoin d'habitude. Or, nous avons vu que c'était l'intelligence, le nous d'Anaxagore, ou le nous d'Aristote, le nous, c'est le nous qui est le lieu par excellence des habitus. Kant ne vous dirait pas ça. Parce que la subjectivité transcendantale implique immédiatement les formes a priori, et les formes a priori, c'est donné par nature. Et donc, des formes a priori, il faut qu'on n'a pas besoin d'habitus. C'est pour ça que Kant n'expliquera jamais le progrès. Kant ne peut pas expliquer la croissance. Pas du intelligent. Pas du problème. Il ne peut pas. Parce qu'il y a les formes a priori. Comme Descartes, il y a les formes innées. Si vous avez les formes innées, vous avez tout dans le berceau. Alors je n'ai comme rôle uniquement de domestiquer un peu, parce qu'il y a beaucoup de poussière depuis. Alors beaucoup de poussière, vous soufflez dessus, c'est fort possible, pour retrouver votre génie initial. Quand vous étiez en berceau, vous étiez des petits génies. Mais depuis, il y a eu tellement de maîtres qui sont venus mettre de la crasse dessus, alors on ne voit plus rien du tout. Et donc, la grande manière, c'est de supprimer tout ça, oui, Jean-Jacques. C'est même la crasse successive qui vient de redécouvrir ce qui est tout à fait pur, ce qui est tout à fait premier, redécouvrir le nous en toute sa spontanéité. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'habitus. Tandis que si au contraire, vous considérez que le nous, au point de départ, est vraiment dans une potentialité radicale. Le nous est analogue dans le domaine de l'esprit, à la matière prima dans le domaine physique. Si le nous est analogue à la matière prima dans le domaine physique, on comprend que le nous implique une indétermination fondamentale et que si à l'égard du nous, et à l'égard du développement du nous, c'est-à-dire à l'égard de ce que représente l'instruction, est enseigné, que vous voyez mieux l'acquisition des habitus. L'acquisition des vertus, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Si vous n'avez pas de vertu, c'est parce que vous n'avez pas été éduqué. C'est du bon sens. Et dans tous les domaines, vous n'avez pas de vertu, où il y a des privations, où il y a des morts, ça vous n'avez pas été éduqué. Donc dans tous les domaines où votre intelligence n'attire pas un habitus, ça prouve que vous n'avez pas été enseigné. Enseignement et éducation, c'est pour l'acquisition des habitus. C'est si intéressant cette question de l'habitus. Parce qu'alors on comprend ce que c'est que l'enseignement, on comprend ce que c'est que l'acquisition. Enseigner dans un domaine où il n'y a pas d'acquisition de l'habitus, on perd du temps. C'est une perte de temps, parce que ça sert à rien. C'est pas la peine. Et une fois que vous avez acquis l'habitude, vous avez plus besoin de transmettre. Si on pouvait graduer l'habitude dans le mousse, on dirait à partir d'un certain nombre d'années, ou bien un certain nombre de cours subis, voilà l'habitude qui est né, il est là, alors à ce moment-là, plus besoin de cours. Et c'est vrai, si on a l'habitude, on a plus besoin de cours. Parce qu'on peut lire soi-même. On peut apprendre soi-même. On peut être, non pas un autodidacte, mais on peut être soi-même source de sa propre instruction. L'autodidacte, c'est celui qui prétend acquérir le habitus sans quelqu'un d'autre qui l'enseigne. L'autodidacte, c'est celui qui prétend que l'homme est capable de lui-même de s'éduquer lui-même. Il ne peut pas. Parce que le texte ne répond pas. C'est pour ça que l'autodidacte, ordinairement, il a des idées qu'il s'est faites, qu'il s'est donné, et il n'y a pas moyen d'y enlever. Absolument plus moyen d'y enlever. Parce qu'il n'a pas eu de maître. Alors il n'a pas acquis des habitus. Il a acquis des prix, des méthodes. Il a appris des choses, mais il n'a pas d'habitus. Ordinairement, les autodidactes, ils peuvent avoir des... Ils sont autodidactes au sens très très fort, c'est-à-dire celui qui vraiment n'a pas voulu avoir de maître. C'est passé, parce qu'on peut avoir des maîtres morts ou des maîtres vivants. Alors les maîtres morts, c'est de se mettre à l'école, par exemple, de Platon ou d'Aristote, ce sont les maîtres morts. Tandis que les maîtres vivants, ce sont ceux qui nous enseignent. Alors ceux qui nous enseignent nous aident à acquérir des habitudes. Hein. Tout l'enseignement et toute l'éducation, c'est acquérir des habitudes. Acquérir des habitudes vertu, acquérir des habitudes art, acquérir des habitudes science. Tout ça, ce sont des habitudes. Dans les trois domaines différents. Dans le domaine de l'intelligence affective, dans le domaine de l'intelligence poétique, artistique, dans le domaine de l'intelligence pure. Et c'est toujours l'habitus qui vient perfectionner le nous. Donc le nous, c'est le lieu par excellence des habitus. Ça, il faut arriver petit à petit à comprendre hein, ce que c'est que l'habitus hein, existe. Ceux qui ont beaucoup de courage devraient regarder Monsaint Thomas, tous ont traité sur les habitus. Et ceux qui ont encore plus de courage, regardez donc Jean de Saint Thomas, le grand traité sur les habitus. Il a fait ça très à fond. Parce qu'il a compris qu'il y avait là un nœud extrêmement intéressant et caractéristique de la philosophie aristotélicienne. C'est un nœud caractéristique de la philosophie réaliste. De voir que de fait, nous sommes des bêtes éducables. Car seulement des bêtes qui peuvent être dressées, mais nous sommes des bêtes du calme. Et bien ça, c'est la définition de l'homme, que je sois bête du calme. Bête capable d'être instruite. La définition de l'homme, tandis que je ne peux pas instruire, on croit instruire les dauphins, mais on ne les instruit pas. On leur apprend une certaine agilité, on leur apprend une certaine succession de liens avec les uns et les autres, mais on ne les éduque pas au sens absolu, parce qu'ils n'ont pas l'habitus. Dresser n'est pas l'intérêt des habitus. L'habitus, c'est autre chose que le dressage, parce que le dressage se fait de l'extérieur, et l'habitus se fait de l'intérieur. On peut acquérir l'habitude de science que si on aime la vérité. On ne peut acquérir l'habitude de vertu que si on aime. On ne peut acquérir l'habitude d'art que si on est inspiré. Quelqu'un qui n'est pas inspiré, vous ne lui apprendrez jamais ce que c'est que l'habitude d'art. Jamais. Impossible. Vous lui avez éliminé dans l'homme. Oui. Alors, au bout d'un certain temps, d'un certain coup de bâton, il arrivera à peu près à répéter. Les méthodes et un dressage. Il y a des dressages artistiques. Il y a des dressages vertueux. Tout le monde se lève en même temps. Ça, c'est un dressage vertueux. Tout le monde, dès qu'il y a qu'un chef, arrête. Parce que si on n'arrête pas, il y a un coup de canon qui arrive juste pour vous dire vous n'arrêtez pas. Alors on arrête. Ça, c'est un dressage. Tandis que l'éducation fait qu'on acquiert de l'intérieur. Un pli interne. L'habitude, c'est ce pli interne, à l'intérieur de du nous. Et ce pli interne, à l'intérieur du nous. Eh bien, le nous étant parfaitement indéterminé dans l'ordre de la pensée artistique, comme dans l'ordre de la connaissance affective, comme dans l'ordre de la science, le nous va impliquer des possibilités de détermination interne. Et ces possibilités de détermination interne, d'un certain ordre vers ça va être l'acquisition des habitudes. Très connu. Comme les petites dents qui poussent. C'est ça, l'habitus. C'est notre mousse qui commence à mordre. Et quand l'habitus est fort, il mord très bien. Parce que vous êtes immédiatement capable de discerner ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est prendre un habitus fort. Vous voyez ? Alors vous avez une. Vous voyez tout de suite ce qui est faux. Tandis que votre mousse est indéterminée, mais vous êtes capable de tout avaler. Pourquoi il y a des gens qui ne voient absolument pas les erreurs, sont de bonne volonté, sont merveilleux, mais ils ne voient pas. Pourquoi il y a des gens qui ne savent absolument pas discerner ce qui est beau, ce qui est laid. Ils avalent tout. Ils sont essayés de... Alors là, à ce moment-là, vous voyez, si vous êtes un vendeur de croûtes, tout de suite en disant que un très grand prix, monsieur dessus, monsieur dessus. C'est comme ça. Les gens qui n'ont pas d'habitus n'arrivent pas à discerner quelque chose d'authentique et ce qui n'est pas authentique. Tandis que quelqu'un qui en a arrive tout de suite à discerner. Ça, c'est l'habitus. Le discernement dans l'intelligence. L'habitus donne ce discernement capable de juger, de voir exactement. Parce que ça donne l'acuité à l'intelligence. S'il n'y a pas d'habitus, il n'y a pas d'acuité. Vous êtes indéterminé. Dans les domaines où vous n'avez pas d'habitus, vous savez vous-même. On n'a pas d'habitus dans tous les domaines. Et dans certains domaines, là, dans un domaine, je peux discerner. Dans les domaines, si vous avez des vertus, vous êtes capable de juger votre vertu et votre qui n'est pas vertueux. Oh, celui-là, c'est uniquement l'apparence. Il n'est pas vertueux du tout. Si vous le regardez, si vous le regardez manger, vous montrez qu'il n'est pas vertueux. C'est uniquement l'apparence. Oh, si vous êtes caissier, ça bien. Mais deux minutes après, tandis que l'homme vertueux, il est capable de juger l'homme vertueux. C'est un jugement par connaturalité. L'intelligence est déterminée. C'est la vertu, l'intelligence. L'intelligence, c'est la prudence. Hein, au l'homme prudent va juger immédiatement l'homme prudent, par comme naturalité. L'artiste va pouvoir juger d'un autre artiste, et surtout dans le domaine où il est artiste. Dans les autres domaines, il dira, j'ose rien dire, mais je crois qu'il y a quelque chose. Mais j'ose rien dire, je crois qu'il y a quelque chose. C'est très curieux d'avoir un habitus d'art, permet d'avoir la sensibilité d'art des autres arts, de ne pas le juger. C'est ce que nous allons voir, ça. Parce que les habitus arts ne sont pas connexes. Tandis qu'au contraire, les habitus vertus sont connexes. Donc si vous avez la prudence, vous avez toutes les vertus. Pas toujours aussi développé, hein. Vous avez la prudence bien développée, parce que vous avez un goût pratique bien développé, mais votre tempérance, oh alors, hein, parce que vous avez un bon concupiscible particulièrement développé. Alors votre bon concupiscible étant particulièrement développé, vous avez beaucoup de peine, hein, de ne pas tomber dans l'alcoolisme. Beaucoup de peine. Alors à ce moment-là, parce que, alors que votre prudence est bien développée, votre prudence est bien développée. Vous avez sens. Alors vous avez sens, vous avez toute tempérance. Mais les dispositions étant telles que vous êtes laissé aller à l'alcoolisme pendant un certain nombre d'années, et là vous avez beaucoup de peine. Je prends l'alcoolisme comme exemple, hein, mais je prendrai d'autres exemples qui seraient tout à fait analogues à celui-là. Alors vous voyez que les vertus sont connexes, les habitudes d'art ne le sont pas. De sorte que si j'ai un habitude d'art, je danse merveilleusement. Vous n'en avez jamais douté. Alors, je danse merveilleusement. C'est l'habitude, c'est danser, c'est évident ça. C'est un habitus, c'est un art. C'est un art particulier. Bon, si on a cet habitus d'art, de danser, on aura le sens pour les autres, mais on ne sera pas jugé. Celui qui chante admirablement. Très bien. C'est pas à cause de ça qu'il pourra juger par rapport à la sculpture. Non. Il dira oui. Dans l'ordre de la musique, ça va à peu près. Et encore. Oui, il dit ça va à peu près. Mais des autres, non, il n'est pas connexe. Tandis que les vertus sont connexes. Alors pourquoi ça c'est un très très gros problème, et ça nous fait entrer dans l'habitus d'art. Ça nous fait entrer dans l'habitus d'art, c'est voir tout de suite cette différence entre les deux. Et ça, on a bien l'expérience, hein. Ça c'est sûr. Si vous êtes vertueux, en ce sens que si vous avez vraiment la prudence, vous avez quand même le sens de votre vertu. En part de naturalité. Tandis qu'au contraire, l'art, non. Il n'y a pas un art générique. Ah. Ça, les sophistes avaient voulu de la marginale. Ça aurait été la rhétorique. Je suis rhéteur, et par le fait même que je suis rhéteur, je peux bien parler de tous les arts. Vous voyez, c'est ce que dit Platon. Je suis rhéteur, et par le fait même que je suis rhéteur, je peux parler bien de tous les arts. Mais si vous pouvez parler bien de tous les arts, ça veut pas dire que vous savez discerner ce qui est vrai dans chacun des arts. Vous pouvez bien en parler. C'est un journaliste. Vous voyez. Là, le journaliste, c'est le rhéteur moderne. C'est le rhéteur moderne. Et il fait des fautes partout. Parce qu'il est journaliste. Vous voyez ? Alors, parce qu'il est journaliste, il n'a aucun art. Et il croit avoir des arts pour. Il croit pouvoir juger de tout. Non, rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'art générique. Chacun est spécial. Alors, évidemment, vous êtes rhéteur. Soyez reconnu. Un bon inventeur, un bon rhéteur. Ça c'est très bien, mais alors uniquement l'art. Uniquement l'art de la parole. Pas plus, pas l'art d'écrire. La rhétorique ne vous fait pas bien écrire. Tandis que la rhétorique vous fait bien parler. C'est pas la même chose. Mais c'est important de voir que les vertus sont connexes. Pourquoi ? Parce que toutes les vertus sont unifiées par la finalité. Il y a une fin humaine. Et une fin humaine qui unifie toutes les vertus, tandis que les arts ne sont pas connexes parce que je suis en face du nous, non plus nous affectif terminé par le bien, je suis en face du nous politique, artistique, qui regarde l'œuvre. La vertu est en vue de l'œuvre. Or, les œuvres sont différentes. Autre chose est danser qu'une œuvre danser. Autre chose est chanter, c'est une œuvre. Autre chose est peindre, sculpter. Alors, quand les œuvres sont diverses, les habitudes sont diverses. Il n'y a pas de connexion. Alors, c'est ce qui fait comprendre que les habitudes d'art sont beaucoup plus nombreux que les vertus. Et c'est ce qui fait comprendre aussi l'aspect anarchique de l'art. L'art n'est pas du tout quelque chose qui unifie. C'est toujours un peu anarchique. Tandis qu'au contraire, un homme vertu n'est pas anarchique, c'est impossible. Tandis qu'un artiste peut vite devenir anarchique. Parce que l'art pousse à la diversité. Pousse à la diversité et que là, il n'y a pas de connexion parmi les uns. Parce que justement, ça vient perfectionner le nous d'ordre pratique. Mais dans l'ordre de l'efficacité vis-à-vis de l'homme. Et les hommes sont diverses. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.